Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Il y a un an, souvenez-vous, Benoît XVI quittait le Vatican à bord d'un hélicoptère blanc, tandis que les cloches de Rome sonnaient à toute volée. Pour la première fois depuis 8 siècles, un pape en pleine possession de ses moyens abandonnait sa charge pontificale pour une retraite inédite. Nous reviendrons sur cet événement dès le début de cette émission. Ce 28 février 2014, son successeur, le pape François, a quant à lui invité l'Église d'Amérique latine à redonner l'espérance à une jeunesse désenchantée et mise à l'écart. Le pape François, qui a par ailleurs demandé aux catholiques de ne pas condamner les couples qui ont rompu. Dans ce magazine, nous parlerons également des médias en République démocratique du Congo et de la solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte. Il y a un an, le 28 février 2013, la renonciation historique de Benoît XVI prenait effet. Lors de sa dernière audience au général Place Saint-Pierre la veille, il avait expliqué avec simplicité et sérénité les motivations de sa décision. « Je n'abandonne pas la croix, mais je reste d'une façon nouvelle près du Seigneur crucifié. » Après avoir salué ses collaborateurs dans l'après-midi du jeudi 28 février, Benoît XVI, pape en exercice pour seulement quelques heures encore, quittait le Vatican pour Castel Gandolfo en hélicoptère. Moment unique d'un pape se retirant de la scène, moment unique guetté par les médias du monde entier. Retour sur ces heures historiques avec Manuela à Fiji.
Un hélicoptère blanc traverse le ciel de Castel Gandolfo. Un frisson parcourt la foule massée sur la place principale du village. Des clameurs jaillissent. Benoît XVI est arrivé. Il a quitté le Vatican et c'est à Castel Gandolfo qu'il a choisi de se retirer, pour un temps. Bosco de Trèpe, jeune journaliste belge, était présent sur la place principale de Castel Gandolfo. Il raconte.
En tant que jeune journaliste, c'était vraiment un moment très impressionnant et très émouvant. On était dans ce petit village de Castel Gandolfo qui est au large de Rome, avec sa petite place dessinée en partie par le Bernin, où il y a une poste, une mairie, un petit café. Et puis il y a Benoît XVI et le pape apostolique qui est là en voisin sur la petite place de ce village. Et on vivait vraiment un moment historique pour l'Église et un moment historique pour le monde même. Dans ce petit village italien, typique italien, c'était vraiment une atmosphère très particulière.
La place du village était trop petite pour accueillir les milliers de fidèles venus saluer une dernière fois leur pape. Des fidèles remplis de joie et de gratitude, Bosco de Trèpe.
Ce qui était impressionnant, c'est qu'au-delà de l'attachement à Benoît XVI, au-delà de l'émotion qu'il y avait de laisser partir un pape dans les conditions qu'on savait, avec son humilité, avec sa fatigue, avec tout ce qu'il avait vécu ces dernières années, c'était aussi un moment d'église, je l'ai ressenti comme un moment d'église. On sortait vraiment des moments difficiles pour l'église. Les gens étaient quand même assez inquiets, mais à travers cette émotion pour Benoît XVI, il témoignait d'un amour pour l'église. Et je pense que Benoît XVI a rapproché les catholiques de leur église.
17h30, les cloches de l'église sonnent à toute volée. Benoît XVI paraît au balcon de la résidence, souriant, les bras tendus, et c'est en simple pèlerin qu'il se présente à la foule émue qui l'acclame.
Je suis simplement un pèlerin qui entame la dernière étape de son voyage terrestre. Avec mon cœur et tout mon amour, avec ma prière et ma réflexion, et de toutes mes forces intérieures, je désire œuvrer pour le bien commun de l'Église et de l'humanité. En cela, je me sens fortement soutenu par votre sympathie. Allons de l'avant en compagnie du Seigneur pour le bien de l'Église et du monde.
Di tutto il cuore la mia benedizione, sia benedetto Dio onnipotente, si benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte, grazie a voi tutti.
Ces mots sonnent comme une dernière caresse paternelle. Benoît XVI, sur le point de devenir le premier pape émérite de l'histoire, bénit la foule et se retire avec la discrétion et l'humilité qu'on lui connaît. À 20h débute la vacance du siège apostolique. Les gardes suisses attachés à la protection du pape lèvent le camp. Les portes de la résidence se ferment et c'est une nouvelle page de l'histoire de l'Église qui se tourne.
Échecs scolaires, chômage, solitude, familles éclatées, drogues, dépendance pathologique au jeu, autant de menaces qui pèsent sur les jeunes. Pour le pape François, l'Église se doit de respecter les jeunes, de les accueillir et d'écouter leurs inquiétudes. Le pape François l'a redit en recevant ce vendredi matin les membres de la Commission pontificale pour l'Amérique latine réunis ces jours-ci en assemblée plénière. Le souverain pontife a regretté que les personnes âgées et les jeunes soient les premières victimes de la culture du rejet. Audrey Radondi.
De nombreux jeunes ne parviennent plus à gagner leur pain par le travail à cause d'un système mondial qui les met à l'écart. Autre menace, il existe, selon le pape François, un armement mondial de la drogue qui est en train de détruire une génération de jeunes. L'Église latino-américaine doit affronter cette situation avec détermination, car on n'a pas le droit de gaspiller le trésor de la jeunesse avec son potentiel de développement et ses idéaux. Elle doit aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu de vie, être attentive à leurs besoins, problèmes et aspirations. Elle doit savoir les éduquer, les évangéliser et faire d'eux des disciples missionnaires. La tâche est difficile, exigeante, mais elle est urgente et nécessaire. Mais le pape a voulu aussi dénoncer l'existence d'une euthanasie cachée dans certains pays d'Amérique latine, où la sécurité sociale paie jusqu'à un certain point et abandonne les personnes âgées elles-mêmes. Un peu plus tôt, au cours de sa messe quotidienne, le Saint-Père avait demandé qu'on ne condamne pas les personnes qui ont connu un échec de leur amour. Il faut au contraire les accompagner. Quand l'amour échoue, car souvent il échoue, nous devons entendre la douleur de cet échec, a-t-il dit, tout en insistant sur la beauté du mariage chrétien, union d'un homme et d'une femme, chef-d'œuvre de la création.
Et je vous rappelle que la question des divorcés remariés a dominé les travaux du consistoire extraordinaire sur la famille, qui a rassemblé quelques 150 cardinaux la semaine dernière au Vatican. Les médias pour une culture de paix créent des images avec la nouvelle génération. C'était le thème du congrès mondial de Signis, organisé cette semaine à Rome avec la participation de 300 communicateurs catholiques venus de 80 pays. Porter un regard sur le monde de l'information et de la culture imprégné par la foi catholique s'avère de plus en plus difficile dans un paysage médiatique très éclaté. C'est particulièrement vrai en République démocratique du Congo, pays marqué par une progression des radios pentecôtistes. Parmi les participants à ce congrès, le professeur Lino Pungi de l'Université catholique de Kinshasa. Il est le président du réseau Signis en République démocratique du Congo. Interrogé par Cyprien Viette, il s'inquiète du manque de moyens des médias catholiques et de leur difficulté à se coordonner dans un pays aussi vaste.
Pour l'instant, à dire sincèrement, il n'y a pas encore une cohésion stricte. Il existe une commission nationale, commission épiscopale des communications sociales, qui essaye un peu de créer le réseau. On a par exemple au niveau de Radio Diocésaine, on en a plus ou moins 33 aujourd'hui, et 7 télévisions catholiques. Il y a un projet de réseauter, de mettre toutes les radios catholiques en réseau, mais qui n'a pas encore commencé. Mais jusque-là, on essaye de travailler, soit on profite des réunions organisées par Signis, soit alors c'est la commission épiscopale des communications sociales qui organise la réunion. Alors en ce moment, les gens se retrouvent pour échanger.
Alors le réseau mondial dont dispose Signis vous accompagne aussi au niveau de la formation, au niveau du matériel, des choses techniques, comment ça fonctionne?
Oui, via la propagande AFIDE. Donc comme la propagande AFIDE finance un certain nombre de projets, dont le screening est fait par Signis, et donc c'est de cette façon-là que certaines radios et télévisions, ou bien d'autres activités dans le champ de la communication sont financées.
Est-ce que en RDC, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Internet, est-ce que ça aussi, ça entre en jeu dans la manière de communiquer pour les jeunes cathos?
Oui, les jeunes, oui, mais c'est comme ça, c'est qu'on cherche justement à réorganiser. On cherche à réorganiser les choses de cette façon-là. On n'est pas encore tout à fait arrivé, mais on essaie de mieux capitaliser, je crois, les réseaux sociaux. Donc au lieu de rester juste, c'est vrai, il faut tuter, il faut être convivial, mais parfois aussi aller vers des contenus plus formatifs, plus édifiants que rester dans une conversation juste banale.
Je crois que la RDC, c'est le pays du monde qui compte le plus d'églises, de dénominations différentes. Ouais. L'église catholique, dans tout ce paysage, elle arrive à faire entendre sa voix malgré l'éclatement des familles.
Si, je pense que jusque-là, l'église catholique est encore une référence. Mais on doit faire attention parce que il y a une érosion démographique. Hein, les jeunes générations, je crois que beaucoup sont dans les églises de réveil que dans l'église catholique, sauf vraiment des familles vraiment catholiques. Mais de manière générale, on commence quand même à sentir une réduction du nombre des jeunes dans les églises catholiques. Les églises font encore le plein. Mais je me dis, quand on regarde, on fait un peu la relation avec le taux de croissance. Je donne un exemple sur 1000 jeunes de 15 à 20 ans. Peut-être il y a 30%, 20%. Qui vont à l'église catholique, donc le reste, ils vont dans les églises de réveil. Pourtant, les générations avant, c'était autour de 40% de catholiques. Mais donc, on doit essayer de faire plus que ça. Donc
la radio, la télévision sont des bons moyens pour essayer de toucher la plus large population possible.
Oui, mais il ne faut pas oublier que les radios pentecôtistes sont plus nombreuses. Par exemple, nous, dans un diocèse, on peut avoir juste une radio diocésaine, mais les radios évangéliques ou bien néo-pentecôtistes, ce sont peut-être 5-10. Et peut-être utilisant aussi de techniques de marketing que nous, on n'a pas tout à fait bien maîtrisées. Marketing, je veux dire, au niveau de la parole, au niveau des images, peut-être que nous, on n'a pas encore trouvé. Et donc, il y a quand même un enjeu important, un défi à relever par rapport à toutes ces églises qui naissent, qui ont des moyens matériels ou bien qui ont des formes de mobilisation de fonds que nous, les catholiques, on n'a pas. Parce qu'il faut reconnaître qu'un certain nombre de radios diocésaines qui sont dans l'Interland, donc à l'intérieur du pays, ont difficile à fonctionner. Faute de moyens pour acheter les carburants, parfois pour payer les taxes, pour payer le personnel de qualité. Donc il y a un défi énorme de mobilisation des ressources qui est demandé.
Justement, le réseau de solidarité mondiale qu'offre Cygnis est peut-être aussi un appui qui peut être précieux pour ce type de structure.
Précieux, je ne pense pas, parce que les moyens se sont réduits, vous le savez. Et d'ailleurs, on vient d'en parler. Maintenant, on va voir un peu comment aller plus vers plus d'autonomie, comment aller plus vers l'autoprise en charge. Ce n'est pas évident, quoi. Donc, on ne peut pas vivre que de ça. Et parfois, il y a cette illusion. On pense que les moyens venant d'ailleurs, surtout de la propagande affidée, vont suffire. Mais je pense que la réalité, c'est plus dur que ça.
Lino Pingy, président du réseau Cygnis en République démocratique du Congo. Le cardinal français Jean-Louis Torrent effectuera une visite brève mais intense au Bénin du 2 au 5 mars. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux rencontrera le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, les membres des commissions épiscopales régionales pour le dialogue interreligieux, les évêques catholiques du Bénin et les représentants des diverses religions. Le mercredi des cendres, il se rendra à Ouida où il visitera la porte de non-retour érigée en mémoire de la période esclavagiste. Ouida a été au XVIIIe siècle un des principaux centres de vente et d'embarquement d'esclaves vers les Amériques. On estime que près de 2 millions d'esclaves sont partis de la baie du Bénin. Avant de rentrer à Rome, le cardinal Torrent priera sur la tombe du cardinal béninois Bernardin Gantine, premier cardinal africain, chef d'un dicastère de la curie romaine. Son séjour aura une forte connotation interreligieuse. Berceau du vaudou, le Bénin est peuplé de chrétiens, musulmans et adeptes des religions traditionnelles. Dans un environnement africain tendu, les imams, évêques catholiques et dignitaires des cultes traditionnels ont appelé au renforcement du dialogue interreligieux, prônant l'acceptation de l'autre dans un esprit d'ouverture et de partage. Il s'agit, selon eux, de préserver la paix au Bénin et d'éviter les tueries et barbaries commises dans d'autres pays du continent. Il y a près de 38 ans, le dimanche 4 juillet 1976, au tout début de la dictature militaire en Argentine, trois prêtres et deux séminaristes appartenant à la congrégation des Palotins étaient sauvagement assassinés dans la maison paroissiale d'une église de Buenos Aires. Surnommée le massacre de Saint-Patrice, du nom de la paroisse concernée, cette affaire revient sur le devant de la scène argentine à la faveur de la reprise du procès, car les coupables n'ont toujours pas été identifiés. Jean-Baptiste Cocagne.
Les indices retrouvés sur place font peser les soupçons sur un groupe paramilitaire lié au gouvernement de l'époque, et peut-être à l'école supérieure de mécanique de la marine, le centre clandestin de détention et de torture le plus tristement connu pendant les années sombres de la dictature argentine. Les assaillants voulaient vraisemblablement venger leurs camarades tués lors d'un attentat. Ils accusaient le clergé de l'église Saint-Patrice d'empoisonner les esprits des jeunes par leurs discours gauchisants. Les religieux de la paroisse Saint-Patrice étaient très engagés dans la pastorale des jeunes. Ils s'efforçaient d'être aux côtés des personnes en difficulté et d'éveiller les consciences face à la montée des dictatures en Amérique latine. Dans leurs homélies, ils dénonçaient les disparitions, d'où la réaction des partisans du coup d'état militaire de mars 1976. Les prêtres avaient d'ailleurs reçu des menaces de mort. Après le massacre, les autorités militaires élaborèrent la thèse d'une attaque extrémiste. L'enquête fut très vite enterrée face aux pressions, réticences et dépistages. Elle fut rouverte en 1984 avec le retour de la démocratie, mais archivée un an plus tard, le massacre étant tombé en prescription. En 2006, le cardinal Bergoglio, le futur pape François, a officiellement entamé la procédure de canonisation des cinq religieux en qualité de martyrs de la foi. Il a confié avoir connu l'une des victimes dont il a pu mesurer la droiture.
Toujours en Amérique latine, une figure emblématique de la gauche, le président équatorien Rafael Correa, a subi dimanche dernier un véritable revers. Après 9 victoires électorales d'affilée, son mouvement a en effet perdu du terrain lors d'élections municipales et locales. L'opposition l'a emporté dans plusieurs grandes villes du pays, à commencer par la capitale, Quito. Alors comment expliquer cette défaite cinglante? Nous avons posé la question au père Pierre Rioufré, en Équateur depuis 1976. Il travaille dans des secteurs populaires avec les communautés ecclésiales de base.
Le président ne laisse pas beaucoup de place aux autres, et en particulier, il n'arrive pas à travailler avec les mouvements sociaux. Donc, il y a un certain rejet de sa politique, et je pense que ça se marque effectivement par les élections dans les grandes villes, surtout dans la capitale. Le président est aussi très agressif vis-à-vis des opposants, en particulier des dirigeants d'organisations sociales, de syndicats. Il fait avancer aussi une politique d'exploitation du pétrole et des mines qui va détruire l'environnement. Donc le président a un langage intéressant pour changer les choses. Mais la réalité est différente.
Le résultat de cette élection témoigne également d'un essoufflement de sa révolution citoyenne.
La révolution citoyenne, c'est un grand mot, parce qu'on est dans des changements, dans des améliorations, des améliorations matérielles. Et citoyenne, il n'y a pas de participation des gens, il faut le reconnaître. Les gens, ils reçoivent beaucoup d'aides, des petites aides, des prêts, pour beaucoup de choses. Mais en fait, eux, les gens ne deviennent pas les artisans de leur changement. Donc je pense aussi que c'est un rappel au président qu'une politique de gauche, comme il dit, vouloir mener, c'est mettre les gens en marche et faire en sorte que ce soit eux qui essayent de résoudre avec lui, avec beaucoup d'autres institutions, les problèmes qui tombent. Je pense que la pauvreté est encore à 40% de la population. Et l'emploi, c'est quand même assez catastrophique, spécialement pour les jeunes.
Cette victoire de la droite dans les trois principales villes, et notamment Quito, c'est plus un avertissement, comme vous venez de l'évoquer au président, à une politique plus participative, ou c'est un véritable souhait d'alternance?
Je pense que les élections de dimanche marquent plus un avertissement au président que vouloir le destituer. Maintenant, je pense aussi qu'au niveau international, certainement, il y a les États-Unis, comme c'est le cas au Venezuela actuellement, qui cherchent à déstabiliser le gouvernement, ça c'est certain. Les financements de beaucoup de groupes et de beaucoup d'ONG viennent de l'extérieur, spécialement des États-Unis. Ça c'est évident. Maintenant, le pays, au niveau économique, vit une certaine prospérité. Donc, je pense que de là vient aussi une certaine stabilité.
Le père Rioufré, interrogé par Hélène Destombes. La Congrégation pour les Églises orientales invite les églises du monde entier à profiter de la période de carême qui commence le 5 mars pour manifester leur proximité spirituelle et matérielle à l'égard des chrétiens qui vivent en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Le pape François a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation au sujet des souffrances endurées par la population en Syrie, Irak, Égypte et Terre Sainte. L'évêque de Rome n'aura pas de paix, a-t-il martelé, tant que des hommes et des femmes, quelle que soit leur religion, seront privés des biens de première nécessité, délestés de leur avenir et réduits à la condition de réfugiés. Plus que jamais, les pasteurs et les fidèles catholiques du monde entier sont invités à soutenir généreusement la collecte annuelle pour la Terre Sainte, organisée traditionnellement le Vendredi Saint. Les évêques diocésains recevront des informations sur les projets réalisés en 2013 grâce à la générosité des catholiques du monde entier. On pense notamment aux travaux de restauration de la basilique de la Nativité de Bethléem. Parmi les domaines d'action prioritaires figurent par ailleurs les écoles catholiques et l'assistance des réfugiés qui fuient la guerre et la violence. L'Église de Terre Sainte, souligne un communiqué, a besoin de notre soutien pour continuer à annoncer l'amour de Dieu. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican. En français, bonne fin de semaine à tous.